Il y a une petite question. Je la vois tout de suite. Pouvez-vous revenir sur ce que vous avez dit sur la manière dont l'autre fait poser la question de Dieu? Je crois que c'est très grave, hein. C'est la clé. L'amitié nous fait vivre de l'autre en le respectant. C'est-à-dire, plus je l'aime, plus il est autre et plus il est un. C'est ça qui me semble très important. Et ça, c'est le propre de l'amour, et c'est le propre de l'amitié. Bon, on voit tout de suite les débordements. L'amitié qui absorbe l'autre, c'est une manière de l'aimer. Je t'aime tellement que je te mange. Parce que c'est là que tu es le mieux. Alors que l'amitié, plus on aime, plus on respecte l'autre. Et je crois que ça, c'est au cœur de l'expérience de l'amitié. Et on doit le retrouver. L'amour d'amitié implique l'expérience de l'autre dans l'amour. Je ne peux expérimenter l'autre que quand je l'aime. Tiens, si je ne l'aime pas, il n'est pas autre. Parce qu'il est n'importe quoi. Pour qu'il soit l'autre, c'est-à-dire celui qui à la fois me résiste et à la fois m'attire. C'est ça qui est tout à fait spécial dans l'amour d'amitié. Je n'ai jamais eu autant de respect que pour quelqu'un que je aime. Et un respect qui touche son altérité. Donc, je l'aime dans la mesure où il est autre. Parce que c'est dans la mesure où il est autre qu'il est mon bien. S'il n'était plus l'autre, il ne serait plus mon bien. C'est ça qui est tout à fait spécial. Quand vous l'absorbez, vous l'avez pris en vous, mais il n'est plus l'autre. Et vous ne le respectez plus. Alors, c'est ça l'expérience propre de l'amour d'amitié. On peut le voir dans l'expérience. L'expérience même de l'amour d'amitié me fait comprendre que plus je l'aime, plus je le respecte. Et plus je le respecte, plus je veux saisir son altérité. Parce que c'est grâce à son altérité qu'il m'attire et que je l'aime. Si il n'était pas autre du tout, c'est-à-dire qu'il était tout simplement celui qui me répète, le petit chat qui regarde dans la glace sa manière d'être. Je vous ai dit, c'est toujours très amusant de voir ça. L'expérience du petit chat. Parce que est-ce que le petit chat peut faire l'expérience de l'autre? fond, je ne suis pas petit chat. Là, je ne peux pas vous répondre. Pas... Mais au fond, il ne fait pas l'expérience de l'autre. L'expérience de l'autre, c'est l'intelligence. Et quand le petit chat est en face d'une glace, la première fois, et que je l'ai remarqué, parce que j'étais spectateur, en me taisant, voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, il lève la patte, puis il voit que l'autre lève la patte. Il lève la patte, l'autre lève la patte. Et je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui se passe en lui? On ne voit que de l'extérieur. Au fond, c'est l'expérience de l'autre sans l'intelligence. L'expérience de l'autre sans l'intelligence. Qu'est-ce que ça signifie? L'autre sans l'intelligence. C'est celui qui imite. Qui imite entièrement. Et qui est totalement dépendant. L'autre fut dans la glace. Est-ce que il est réellement autre ou il est virtuellement l'autre? Poussez votre connaissance philosophique jusqu'au bout. Quand le petit chat se regarde dans la glace. Alors, c'est intéressant parce que ça montre que dans l'amour d'amitié, il y a l'expérience de l'autre. Et l'expérience de l'autre ne se fait pas par le point de vue sensible. Le sensible saisit l'autre comme un autre moi-même. Celui qui m'imite. Celui qui tourne relatif à moi. Donc, ce n'est pas l'autre. C'est moi qui me prolonge. Saisir l'autre, c'est donc saisir une réalité qui n'est pas moi. Et non pas saisir une réalité qui est totalement dépendante de moi. Saisir la réalité totalement dépendante de moi, comme le petit chat, le jugement n'est pas là. Le jugement qui met l'autre. Et donc, c'est l'expérience de l'autre qu'il faut bien saisir. À l'intérieur de l'amour. Et c'est à l'intérieur de l'amour d'amitié que vous faites de la façon la plus profonde l'expérience de l'unité de l'autre. Désormais, je voulais vous dire. Et alors, je continue. Vous nous avez dit que la manière dont l'autre fait poser la question de Dieu. Vous avez employé la notion de virtuel. Qu'est-ce à dire? Quelle différence entre virtuel et imaginatif? Ça, c'est très bien posé. Parce que, évidemment, virtuel et imaginatif, il y a quelque chose de commun. Et quelque chose de différent. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans l'expérience même de l'amitié, il y a l'expérience de celui qui est semblable et celui qui est autre. Et plus j'ai l'expérience du semblable, plus j'ai l'expérience de l'autre. Tandis que le petit chat, plus il a l'expérience du semblable, moins il a l'expérience de l'autre. C'est très curieux. Mais c'est très important, ça. nous, dans l'amour d'amitié, plus j'ai l'expérience que mon ami, c'est mon ami, donc semblable à moi, plus j'ai l'expérience qu'il est autre. Alors, vous voyez, il y a là un jugement d'existence sur l'autre. Le jugement d'existence porte sur l'autre, en tant qu'il est autre. L'amour porte sur l'unité. Je l'aime. Alors, vous avez donc dans l'amour d'amitié cette chose tout à fait spéciale, que l'ami est un, que l'ami est autre. Alors, ça me peut poser la question, quel est cet autre que j'aime? L'autre. L'autre peut mourir. Je le sais. Et je continue de l'aimer. Continue de l'aimer, mémoire de son amour. Mais s'il meurt, est-ce que mon amour pour lui est le même qu'avant sa mort? Je crois que l'amour pour lui, après sa mort, et tout autre. J'ai mémoire de lui. Je me souviens. J'ai mémoire de lui. Je me souviens. Mais je sais qu'il est mort. Donc je sais qu'il n'est plus l'autre vivant. Il n'y a plus que l'autre virtuel. Vous voyez, apparaît le virtuel. Quand apparaît le virtuel, quand il est mort, reste une certaine unité, mais une unité qui n'est pas du tout la même. Alors, je dis, j'ai souvenir de lui. Et le souvenir de lui fait que je continue de l'aimer. Je l'aime dans le souvenir. L'aimer dans le souvenir, c'est pas la même chose que l'aimer dans la réalité. Voyez comment l'amour dépasse l'existence actuelle, puisque je continue de l'aimer. Et parce que je continue de l'aimer, mon amour dépasse sa mort. L'amour que j'ai de lui, en tant que personne, dépasse la mort. Et le souvenir que j'ai de lui m'aide à continuer à l'aimer. Mais je sais très bien que ce souvenir qui continue à l'aimer va de fait dépendre du temps. C'est un souvenir. Donc, plus le temps s'accumule, plus le virtuel augmente. Il peut être toujours très aimable, très aimant, mais il n'est plus là. Et il peut y avoir alors ce déséquilibre terrible que le virtuel prend tout et on est loin du réel. Ça, je crois que ça, on peut tous l'expérimenter et voir. Et c'est très important parce que ça fait partie de l'amour de l'amitié, ça. Donc, l'amour d'amitié me donne l'expérience du réel et du virtuel. Et quand l'un grandit trop, l'autre diminue. Quand l'un diminue, l'autre grandit. Il y a un équilibre. Quand l'ami est vivant, le virtuel est toujours corrigé par l'expérience réelle. Et donc, c'est l'expérience réelle qui mesure mon amour. Quand il disparaît, l'expérience réelle disparaît, il est mort. Le souvenir peut devenir très grand. Il n'y a rien qui corrige le souvenir. Et vous pouvez vivre de ce souvenir d'une manière très forte, mais qui n'est pas réelle, qui est imaginaire. Et il se nourrit eux-mêmes. Le virtuel a cette espèce de possibilité de ne pas avoir de limites, puisqu'il n'est pas réel, il n'existe pas. Il y a donc cet équilibre dans toute amitié et dans la mort de l'ami. Où ça devient très, très net. Si la mort de l'ami augmente sa présence par le virtuel, il risque de cacher le réel par le virtuel. Et le virtuel prend tout. Oui. Phénomène du jugement d'existence, ceci est. Et dans le jugement d'existence, ceci est, c'est toujours la réalité existante qui mesure. Mais s'il est mort, la réalité existence n'est plus là. Alors, le virtuel peut se développer d'une manière intense. Ceci, c'est pour vous montrer la complexité de tout amour d'amitié. Et cet équilibre de tout amour d'amitié. Alors, je reviens. Comment l'ami que je continue d'aimer virtuellement, lui qui est mort, comment l'ami peut être pour moi l'occasion de dépasser l'ami et de voir que l'ami était porteur de quelqu'un d'autre. Dans la mesure où il aimait. L'amour comme tel dépasse la mort. L'amour comme tel a sa propre existence. Et qui est virtuelle, mais qui est réelle. et qui peut nourrir très profondément l'imagination. Il n'y a plus de contrôle. Et quand l'ami est vivant, il y a un contrôle. Je quitte cet ami et je risque, par mon amitié, dans mon amitié, de figurer des tas de choses virtuellement. Puis quand je retrouve, je m'aperçois que le réel et le virtuel ne sont pas adéquats. Et ça fait qu'il faut des drames, c'est sûr. Parce que le virtuel n'est pas mesuré. Il peut s'augmenter énormément par l'imagination. Qu'est-ce qui mesure le virtuel ? C'est le réel, c'est l'ami qui existe. Mais quand l'ami n'existe plus, donc qu'est-ce qui va mesurer ce virtuel ? Rien. Il augmente énormément. Et c'est ce qui fait comprendre qu'on peut vivre avec celui qui n'est plus. On vit virtuellement de sa présence. Alors, c'est dangereux de vivre virtuellement de sa présence, puisqu'il n'y a plus rien qui vient mesurer cet amour. Virtuel, ça peut aller à l'infini. Et donc ça peut m'encombrer de façon telle que je ne vois plus le réel qu'à travers cet amour virtuel de celui qui a disparu. Et par le fait même, je perds pied. Je crois que ça, c'est très important de voir la naissance du virtuel et voir comment le virtuel peut grandir par l'imagination et devenir quelque chose de très fort et d'atteindre jusque, d'une certaine manière, la folie. Je ne distingue plus le réel du virtuel. Est-ce que la folie, en prenant folie au sens propre du mot, sans le côté affectif, c'est la confusion du virtuel et du réel. Le monde n'est plus polarisé par la fin, mais il est polarisé par le virtuel. Quand il est polarisé par la fin est devant lui. Et la fin existe. C'est la réalité qui le mesure. Mais quand il n'y a plus cette rectitude, il n'y a plus que la rectitude du virtuel. Alors, le virtuel, je suis maître du virtuel. Il n'existe pas dans la réalité en dehors de moi. Alors il peut très bien arriver à me saisir entièrement, totalement, si je n'ai pas la force de revenir au réel. Je continue d'aimer celui qui a disparu, je sais, je l'aime, mais je sais que je ne peux pas mettre ma vie dans cet amour qui a disparu. Autrement, je vis dans le virtuel, donc dans l'irréel. Le virtuel que mon imagination nourrit, et nourrit par les souvenirs. Alors, là, le grand problème, je crois que c'est là le grand problème. Comment l'amour que j'ai de l'ami, cet ami peut disparaître. Et c'est pas parce qu'il peut disparaître que mon amour pour lui n'est pas réel. Mon amour pour lui est réel, bien qu'il puisse disparaître. Mais son amour dépasse la mort, puisque son amour peut être alimenté virtuellement par les souvenirs. Donc il y a dans l'amour quelque chose qui est au-delà de ce qui existe. Il me semble que cela, on peut l'expérimenter. Il y a dans l'amour quelque chose qui est au-delà de ce qui existe. Cet au-delà qui existe, c'est l'amour. Donc, cet amour réclame, pour demeurer amour vrai, l'existence. Et l'amour de l'ami porte en lui l'existence d'un autre. Et il en est l'expérience du fait que l'amour demeure au-delà de l'existence de l'autre. Il dit, cet amour, nécessairement, se porte sur quelque chose de réel. Il est porteur de quelque chose qui, pour moi, n'est pas encore explicite, mais il est porteur de quelque chose d'autre. C'est très curieux, ça. Mais il me semble, et c'est là où je peux dire que cet amour d'amitié de l'autre, donc, a en lui une force qui dépasse l'autre, qui dépasse celui qui est mort et qui appelle l'autre. Et c'est là où je me pose la question, y a-t-il donc un autre ? Alors, pour revenir vraiment à l'autre existant, je dois revenir nécessairement au jugement d'existence. Ceci est. Le virtuel peut être un appel vers Dieu, mais ne peut pas être une preuve de l'existence de Dieu. C'est toujours l'être existant et limité qui seul peut être une preuve de l'existence de Dieu. Mais pour moi, dans un monde comme le nôtre, où ce qui est tellement voilé, caché par l'artificiel, par le virtuel, que l'amour d'amitié, lui, continue de me faire vivre la différence entre ce qui est et le virtuel. Et au fond, c'est dans ce sens-là que l'amour d'amitié est comme le dernier refuge du réalisme. Je crois qu'on peut dire ça. c'est le dernier refuge. C'est très difficile de maintenir pour nous, étant donné le développement énorme des sciences, et dans les sciences mathématiques, le virtuel et le réel se confondent. Dans les sciences, dans ce monde qui est un monde très pris par les mathématiques, le virtuel et le réel se confondent constamment. Alors, il faut que vous preniez quelque chose d'autre qui me permet de distinguer le réel du virtuel. Et je crois que c'est l'amour d'amitié qui est le dernier refuge. C'est à chercher, ça. C'est une position extrême. Nous sommes dans une position extrême au plan métaphysique. Nous avons une peine très grande de garder un jugement d'existence pur, distinct du virtuel. Les deux sont constamment liés. Or, par le virtuel, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Je remonte toujours plus loin. Je remonte à l'infini. En mathématiques, je remonte à l'infini. Pour ne pas remonter à l'infini, il faut que le jugement d'existence reste très net. Et que ce jugement d'existence, à l'intérieur de l'amour, garde sa pureté, sa netteté. Or, le jugement d'existence le plus fort, c'est le jugement d'existence à l'égard de mon ami. C'est pas à l'égard des choses matérielles, c'est à l'égard de mon ami. Mon ami existe. Et existe pour lui. Et du fait même que le jugement d'existence a toute sa force à l'égard de l'ami, la mort qui vient supprimer l'existence de l'ami est un appel à l'autre. Qui n'est pas atteint par la mort. Je crois que c'est très important pour nous de voir la différence et en même temps l'appel qui existe entre le jugement d'existence et l'amitié. L'ami qui vit à côté de vous, son jugement, le jugement d'existence que j'ai pour lui est à l'intérieur de mon amour. Je t'aime. Oui, c'est toi que j'aime. C'est pas ton image que j'aime, c'est toi que j'aime. C'est toi réel. Ça, je crois qu'on peut l'avoir. Et même, on doit l'avoir. Pour que notre amour soit vrai. Et notre amour est vrai dans la mesure où, justement, il coïncide avec le réel. Si mon amour porte sur quelqu'un qui n'est plus réel, sur le virtuel. Mon amour tend à disparaître. Il ne peut pas se renouveler tout le temps. Il se renouvellera par l'imagination, mais l'imagination, c'est fatigant. L'amour d'amitié me donne l'existence de l'ami par l'amour et dans l'amour. Et je porte cette existence de l'amour, de l'amitié et de l'ami dans son amour. Et ça demeure. Même avec la mort de l'ami. Mais ça demeure selon un autre mode. Qui ne peut plus être le mode existentiel. Mon ami est mort. Je voudrais beaucoup qu'il ne soit pas mort, mais il l'est. Et je suis obligé de dire qu'il est mort. Donc il n'est plus le même. Je pense à lui, tous les souvenirs, mais il est mort. Il n'est pas là pour rectifier mon amour. Tant qu'il était là, il rectifiait mon amour. Quand il n'était pas là, je partais dans des rêves magnifiques. Et dès qu'il était là, tous ces rêves revenaient dans la réalité. Il y a dans l'ami un jugement d'existence qui est unique. Tu es mon ami, jugement d'existence unique. C'est ce côté unique du jugement d'existence de l'ami qui doit me servir à ce dépassement. Parce que mon ami, dans son amitié, ne meurt pas. Dans son amour, ne meurt pas. Il existe. Alors je dis, il existe virtuellement, c'est sûr, il existe. Alors, il y a possibilité pour moi, de comprendre que l'amour est victorieux de la mort. Que l'amour réclame cette victoire sur la mort. Et comment l'amour réclame cette victoire sur la mort? En découvrant l'existence. En découvrant l'existence de Dieu. C'est quelque chose qu'il me semble qu'on doit pouvoir développer cela. La victoire de l'amour. Vous voyez, ça, c'est au fond. Prendre très au sérieux ce que Thomas d'Aquin dit à propos des transcendentaux. Les transcendentaux sont au-delà de la distinction essence et existence. Ils existent et ils réclament le réel. L'amour réclame la source de l'amour. L'amour réclame la source de l'amour qui est la réalité suprême. Et dans l'amour d'amitié, mon ami bonheur est pour moi le gage qu'il y a quelqu'un, puisque c'est l'amour, c'est pas uniquement quelque chose, il y a quelqu'un qui est source d'amour. Et c'est évidemment très, très difficile pour celui qui n'a absolument pas compris ce que sont les transcendentaux, l'amour. Est-ce que l'amour réclame l'existence et pourquoi ? Et c'est comme l'être. L'être réclame l'existence. L'être, quand il l'est, et il est en acte. Un être en puissance, ce n'est pas l'être. Un être virtuel, un amour virtuel n'est pas l'amour. Il y a une différence entre l'amour d'amitié et l'amour virtuel de l'amour de l'ami mort. Alors, il faut saisir la différence. Et comment l'amour réclame l'existence. Vous pouvez le saisir par le point de vue de la bonté. La bonté qui est source d'amour, la bonté par elle-même existe. Alors vous reprenez le mouvement inverse, le mouvement, l'effet de la bonté, c'est l'amour. L'amour suscite en moi un amour. Et la bonté, si par elle-même elle existe, l'amour par lui-même existe. Mais la séparation de l'amour et de son existence, je peux le faire, c'est évident, et je dois même le faire. Mais je le fais pour toutes les réalités matérielles. Pour toutes les réalités matérielles, autres leur existence et leur bonté. Mais pour les réalités spirituelles, leur bonté implique l'existence. Ça, c'est le point de vue que nous devons maintenir. Vous ne pouvez pas penser le bien sans l'existence. Vous ne pouvez pas penser l'amour sans l'existence. Vous pouvez le penser virtuellement, momentanément, mais pas d'une façon absolue. Au fond, c'est essayer de retrouver le sens véritable des transcendentaux. Et on a insisté sur l'épreuve d'existence de Dieu uniquement à partir de l'être. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons insister sur l'épreuve d'existence de Dieu à partir de l'amour d'amitié. Parce que l'être est tellement falsifié. Il est très difficile de découvrir à partir de l'être Dieu. Vous allez me dire que l'amour aussi est falsifié. Oui, c'est sûr. Mais l'amour garde vis-à-vis de nous vis-à-vis du sujet, vis-à-vis de la personne, un impact unique. Et cet impact, c'est son existence. Et, au fond, je dirais que chaque transcendantal peut être pour nous un moyen d'atteindre Dieu. Et ce serait très important d'essayer de découvrir comment chacun des transcendantaux est pour nous le moyen de passer d'une réalité finie à une réalité infinie. Ça peut se faire du côté de l'unité, de la vérité, de la bonté, les transcendantaux. Et toujours le point de vue reste la réalité existante. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette question-là est très importante et elle n'est pas commode. Il faut au moins la sentir, ce passage de l'amour au réel. Et comment l'amour implique le réel. L'expérience même de l'amour vous empêche d'être idéaliste. Vous ne pouvez pas être idéaliste dans l'ordre de l'amour. Si vraiment l'amour pour vous est premier, vous ne pouvez pas être idéaliste. Parce que quelqu'un qui vous dit oui, je t'aime d'une façon idéale. Alors vous avez envie de lui dire, mais donc tu ne m'aimes pas. Parce que tu aimes en moi le bien idéal. Or, il n'existe pas. En moi, il n'existe pas. Il est limité. Donc, tu nies l'amour. Et ça fait comprendre, du reste, comment les idéalistes purs nient l'amour. En disant, mais l'amour n'existe pas. Dans toute sa pureté. L'amour que j'expérimente est toujours limité. Et en lui-même, l'amour n'implique pas cette limite. Et c'est pour ça que dans l'amour d'amitié, si j'ai vraiment l'expérience de l'amour de l'ami, je suis obligé de poser l'existence d'un premier. Puisque l'amour n'implique pas de limite.